Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Ala Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, The Walking Dead.
Mais comme il n'y a pas que des séries dans la vie, je vais commencer par vous dire deux mots de cinéma. Grâce à notre sponsor, First Man, film qui est sorti le 17 octobre dernier, à l'occasion duquel a été développée une série inédite de podcasts, 3h56, le premier homme sur la Lune. Deux mots, ou plutôt trois noms. Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune et dont First Man raconte l'histoire poignante. Damien Chazelle, ça c'est l'extraordinaire réalisateur du film, à qui l'on doit notamment La La Land, le phénomène ciné de 2017. Et puis Ryan Gosling, dont le nom se suffit à lui tout seul. Autant de raisons donc d'aller voir First Man le 17 octobre en salle. Bienvenue dans une série qui vous terrifie depuis plus de 8 années déjà et dont la prochaine saison va être diffusée le 8 octobre sur OCS, The Walking Dead. Alors The Walking Dead, de quoi ça parle ? The Walking Dead se déroule dans un monde futur, post-apocalyptique, mais qui n'est pas ravagé par un holocauste nucléaire, mais plutôt par une invasion zombie. L'invasion a eu lieu, tout est terminé, ils ont gagné, les rôdeurs, c'est le nom donné aux morts-vivants, errent maintenant prêts à dévorer tout être encore en vie. On est donc dans un monde dépouillé de toutes ressources modernes. Pourquoi et comment cette invasion est survenue n'est pas à l'ordre du jour. On sait simplement qu'un virus a créé cette pandémie zombifiante. Mais là n'est pas le propos de la série. Survivre est le propos. Dans cette nouvelle société, les conflits moraux abondent. Allez-vous tuer votre femme agonisante avant qu'elle ne devienne zombie ? Quelle valeur a la vie et celle des morts-vivants ? Quelles sont les bases sur lesquelles une nouvelle société peut se créer ? Comment un nouveau monde pourrait-il ressurgir, sachant que la mort n'est plus une échappatoire ? Il suffit de la morsure d'un rôdeur pour devenir zombie à son tour. Très vite, Rick Grimes, le personnage que nous suivons et qui va franchir cette période où le virus se répand pour tomber dans ce monde en sortant de son coma, retrouve sa femme et ses enfants, afin que ce ne soit pas une quête toute la série durant. Rick est shérif, en cela il symbolise une loi qui n'existe plus, qui va lentement se modifier. Ce qui était immoral et inacceptable va peut-être devenir la règle. Et les monstres de ce monde ne sont pas uniquement les rôdeurs, mais aussi les tyrans, les criminels, les mégalomanes qui profitent de la déliquescence de cette société pour exercer leur domination. Rick Grimes, c'est l'acteur britannique Andrew Lincoln. Sa femme Laurie, c'est Sarah Wayne Collis, qu'on a vu dans Prison Break. Shane, le meilleur ami de Rick, et depuis sa disparition, l'amant de sa femme, c'est John Bernthal. Et Daryl Dixon est un pourchasseur de rôdeurs, interprété par Norman Reedus. Adapté d'un comics mensuel qui remporte un grand succès depuis 2003, la série défie les règles communément admises et réalise des records d'audience dès son lancement en 2010. 5 millions de téléspectateurs, c'est un record pour une série diffusée sur une chaîne câblée. Et c'est d'ailleurs deux fois plus que Mad Men, la série emblématique diffusée exactement sur la même chaîne. Depuis, les audiences se sont envolées, puis sont retombées. Des personnages ont disparu, des nouveaux sont apparus. Les showrunners se sont succédés, les procès aussi, pour tenter de profiter de ce succès phénoménal. Ils se sont multipliés, tout comme la série qui a aussi contribué à susciter une ferveur d'adaptation de comics pour le petit écran, de Preacher à Légion. Même si, ironiquement, elle n'est pas la première série télé mettant en scène des zombies. Parce que cet honneur revient à Dead Set, une mini-série britannique de 2008, créée par Charlie Brooker et qui est une satire horrifique. Jugeant plutôt, il s'agit d'une invasion de zombies qui se déroule en plein milieu d'une émission de télé-réalité d'enfermement type Secret Story. Ouais, vous ne rêvez pas. Et maintenant, voici les grands moments qui ont secoué toute la diffusion de The Walking Dead. Après s'être fait blesser lors d'une opération de police, le shérif Rick Grimes sort du coma pour découvrir un monde envahi par les morts vivants. Il va découvrir un petit groupe de survivants et retrouver sa femme Laurie et son jeune fils Carl. Une attaque de zombies va décimer le groupe et sa rivalité avec son ancien partenaire Shane West, devenu l'amant de Laurie, va enfler. Ils vont tous ensuite faire halte au CDC, le Centre for Disease Control, près d'Atlanta, dans l'espoir de trouver un remède à cette invasion. En vain. La saison 2 de Walking Dead se déroule en grande partie dans la ferme de Herschel Green, où Rick et ses amis vont trouver refuge. Pour l'anecdote, il a fallu convaincre les propriétaires de la ferme que celle-ci convenait pour le tournage et surtout de laisser l'équipe filmer chez eux, s'assurer que le sujet ne soit pas trop contraire à leurs convictions religieuses. Maggie, la fille de Herschel Green, se rapproche de Glenn, un des survivants qui a aidé Rick dès son arrivée à Atlanta. Laurie, quant à elle, est enceinte et Shane, de retour en zombie, va être abattue par le jeune Carl, qui défend ainsi son père. Rick, quant à lui, va se déclarer chef du groupe et, tel un dictateur, refuse toute idée de démocratie dans son groupe. Dans la saison suivante, la troisième, ils vont donc réquisitionner une prison, la débarrasser des morts-vivants qui la peuplent, et ils vont tenter de construire une nouvelle vie derrière ces grillages protecteurs. Apparaît aussi un des personnages les plus mythiques du comics, Michonne, incarné par Danaï Gurira. Enfin, les survivants vont rencontrer le gouverneur, le dirigeant de la communauté de Woodbury, interprété par David Morrissey. Sous des allures séduisantes, le gouverneur dissimule en fait sa fille, devenue rôdeur, et qu'il rassasie à partir de membres humains. Le gouverneur va échouer à tenter de déloger les survivants de leur prison, puis va s'enfuir, et c'est à Woodbury que Daryl Dixon retrouve son frère Merle, qu'on avait laissé au début de la saison 1. Ainsi que le personnage de Milton, un pseudo-scientifique qui prétend faire des recherches sur le virus qui transforme les morts en zombies. Mais le drame majeur de cette saison, c'est la mort en couche de Laurie, la femme de Rick. Sarah Wayne Collins disparaît donc, elle aussi, de la série, comme d'autres personnages, Merle, T-Dog, Andrea, Axel et Milton. Et ces départs de la série ont donné naissance à une tradition parmi les acteurs et actrices. C'est ce que nous a raconté Sarah Wayne Collins elle-même, justement, lors de son passage au MIPCOM à Cannes en 2012. C'était bien avant de savoir qu'elle allait elle-même quitter la série. Le dîner de la mort. Je pense que c'était dans Vanity Fair, je crois, que dans Les Sopranos, James Gandolfini organisait un dîner à chaque fois qu'un des membres de son équipe se faisait tuer et quittait la série. Il emmenait tout le monde à dîner. Et je me suis dit que c'était une belle idée. Alors, j'ai commencé à le faire dès la première saison. Je crois bien que notre première morte, c'était Emma. On s'est donc tous retrouvés dans un restaurant familial, uniquement les acteurs. Personne de l'équipe, personne de nos familles. Uniquement ceux qui savent ce que ça signifie d'être tous les jours sur ce tournage. C'est devenu une merveilleuse tradition, mais aussi une terrible tradition, parce qu'on a perdu de très grands amis sur cette série. Et vous savez, au fur et à mesure que la série prenait de l'ampleur, j'ai dû être de plus en plus prudente. Maintenant, je réserve une salle privée dans un restaurant. Je dis que c'est pour un anniversaire. Parce que sinon, les serveurs vont tweeter qu'un tel va partir de la série parce qu'ils ont un dîner de la mort avec lui. On doit faire attention. La saison 4 voit le retour du gouverneur qui va semer la panique dans la communauté tranquille que Rick, son fils Carl et son enfant Judith sont parvenus à créer. Et dans le premier épisode, encore une autre anecdote, ce sont 179 morts vivants qui apparaissent. Et anecdote aussi, Greg Nicotero, qui est le responsable des effets spéciaux de la série, a créé pour elle une véritable zombie school, une école où les figurants apprennent à se comporter, à bouger, à remuer comme devraient le faire les rôdeurs de la série, pour qu'il y ait une vraie cohérence. Au milieu de cette saison, la cité-prison est détruite, et tout le groupe de survivants est disséminé dans la nature, comme au tout début de la série. Rick n'est plus en capacité de gérer l'équipe, et c'est son fils, Carl, qui devient petit à petit un vrai guerrier. En cela, ceci symbolise le passage d'un enfant à l'âge adulte, mais évidemment dans un environnement très hostile. De nouveaux personnages vont se joindre à l'équipe, principalement Abraham Ford, interprété par l'acteur de Southland, Michael Kolditz. Et dans la saison suivante, une partie de l'équipe arrive à Terminus, un endroit tenu par Garrett, pour découvrir le secret des gens qui vivent. Ils sont devenus cannibales. L'église du Père Gabriel devient un autre refuge pour certains des survivants. Il y a aussi l'hôpital Grady Memorial, où Beth perdra la vie aux grandes dames de sa sœur Maggie et de Daryl. Enfin, la duplicité d'Eugène, un docteur qui a rejoint le groupe et l'incite à se rendre à Washington, est exposée au grand jour. En fait, il n'est pas du tout le scientifique qu'il prétend être. Il a inventé toute cette histoire de vaccin anti-zombie. Finalement, est-ce qu'il est bien utile de se rendre à Washington ? Nous découvrons aussi un groupe de pillards, les Wolves, qui tranchent la gorge de leurs victimes, gravent un W sur leur front et les laissent pourrir dans le but d'attirer d'autres proies. Nous arrivons à la sixième saison. Notre groupe de personnages va découvrir Alexandria, un nouveau havre de paix, mais très vite, y apparaîtront des dissensions. Et Aaron, qui a contribué à y faire venir Rick, se trouvera au beau milieu de cette guerre civile. Glenn, qui échappera de justesse à une attaque de zombies, et Maggie se prépareront à devenir parents. Les Wolves vont aussi attaquer l'endroit et les zombies vont l'envahir. Et d'ailleurs, l'épisode où cette attaque a lieu détient le record, pour l'instant, dans The Walking Dead, 1300 figurants zombies. Un exploit pour Greg Nicotero et son équipe de maquilleurs. Il nous en a parlé, à Romain Gita et à moi, quand nous l'avions reçu à Toulouse pour une convention.
You know, the big zombie days are probably...
Des jours comme ça, les grands jours avec beaucoup de zombies, c'est un vrai défi. On a plusieurs postes de maquillage. Dans la loge principale, on fait les maquillages détaillés qui prennent une heure et demie. Donc, au bout de 6 heures, avec 5 personnes, on peut produire 20 maquillages détaillés. Donc on commence à 4 heures du matin. On aura 20 maquillages pour les gros plans prêts à 10 heures du matin. Pendant ce temps-là, dans une autre loge, 4 à 5 maquilleurs font des maquillages peints. Ils noircissent les contours des yeux, ils creusent les pommettes, ils peignent quelques détails. Ils rajoutent du sang sur les mains et le visage. Ce sont des maquillages qu'on verra au second plan. La dernière solution, ce sont les masques. On en a une centaine. Donc en une journée, on peut avoir jusqu'à 200 zombies. Et il y a une chose à laquelle les gens ne pensent pas. C'est qu'à la fin de la journée, il faut démaquiller tout le monde. On ne se contente pas de dire « Ok, au revoir et merci ». Nouveau personnage, Jésus, un maître en combat au corps à corps qui sera le lien entre les gens d'Alexandria et les fermiers de la colonie Hilltop, la colline. Une colonie dirigée par Grégory, un personnage interprété par Xander Berkeley, que vous avez peut-être déjà vu dans 24 heures chrono. Et surtout, c'est l'apparition de Negan, qu'incarne l'acteur Jeffrey Dean Morgan. C'est l'acteur du film Watchmen, où il était déjà un personnage assez extrême, le comédien, et de la série Grey's Anatomy. Negan est un psychopathe à la batte de baseball recouverte de fils de fer barbelés, et il appelle cette batte de baseball Lucille. Il est le chef des sauveurs, et les premiers à les croiser sont Daryl, Abraham et Sacha. Sacha qui est interprété par ce n'est quoi Martin Green. À la saison 7 de The Walking Dead, Negan a capturé toute l'équipe. Il va tuer Glenn et Abraham. Il a réduit Rick à l'état d'esclave. Le groupe est totalement brisé, psychologiquement parlant, et ses membres vont être torturés. Carol et Morgan, de leur côté, sont au sein d'une communauté bien moins belliqueuse, le royaume, mené par le très charismatique roi Ézéchiel, accompagné de son tigre Shiva. Et ce sont donc avec les forces conjuguées d'Alexandria, de la colline et du royaume que Rick, au début de la saison 8, lance une attaque contre Negan, son sanctuaire et ses sauveurs. Mais l'attaque échoue, les sauveurs s'enfuient, la communauté d'Alexandria est réduite en cendres et les alliés sont très fortement affaiblis. Mais Dwight, au sein des sauveurs, est en fait un traître qui sert d'agent double à Rick. Grâce à lui, il finira par se venger de Negan. On va découvrir que Carl a été mordu par un zombie, il va donc rendre l'âme. Morgan quitte la série à la fin de la saison pour intégrer la série dérivée Fear the Walking Dead. On est à la saison 8, on arrive au 100e épisode de la série, et bientôt la saison 9 qui voit le départ d'Andrew Lincoln, celui-ci abandonne donc le rôle central de Rick. Un si long voyage était tout ce dont rêvait l'acteur Andrew Lincoln au tout début du tournage. Nous l'avions rencontré, c'était au MIPCOM, en 2010, il était venu y présenter la série. Je pense que c'est une chance d'avoir autant de temps pour être Rick Grimes. Car il va extraordinairement changer et passer d'un être humain à un autre, totalement différent, au fil du comics. Pour n'importe quel acteur, c'est quelque chose de très excitant. C'est le type de parcours que l'on rêve d'interpréter. Tout particulièrement quand on est sous les auspices d'une personne comme Frank Darabont, et toute l'équipe, bien sûr. Le monde que nous peuplons est si extrême, si différent de tout ce que nous pouvons connaître, que ça devient très excitant de jouer, de s'y jeter littéralement. Cela repousse le personnage dans ses limites.
Et côté coulisses, ça donne quoi ?
Et maintenant, après vous avoir retracé l'histoire dans les épisodes de The Walking Dead, je vais vous raconter l'histoire derrière l'histoire, les coulisses de la série, qui sont, vous allez le voir, quasiment aussi trépidantes que la série elle-même, si ce n'est même un peu plus par moment. Alors, à l'origine de The Walking Dead, c'est un comics qui est créé par Bob Kirkman en 2003. Le projet initial avait pour titre Dead Planet, puis La Nuit des Morts Vivants, en hommage au film mythique de George Romero, et puis finalement The Walking Dead. Le comics est en noir et blanc parce que, comme tout bon film d'horreur, il le précise dans le descriptif original, et puis, il faut bien avouer, cela diminue aussi les coûts d'impression. Tout d'abord, le comics est dessiné par Tony Moore, retenez bien ce nom, on y en reparlera, et puis Charles Adlard. Et c'est Frank Darabont, réalisateur nominé aux Oscars et aux Golden Globes pour des films comme La Ligne Verte et Les Évadés de Shawshank Redemption, qui s'intéresse de près aux comics. Pour l'anecdote, Frank Darabont est né en 1959, tiens comme moi, à Montbéliard. Ses parents étaient des réfugiés hongrois. Il a été scénariste sur la série Young Indiana Jones Chronicle. Eh ouais, les aventures du jeune Indiana Jones. Il appelle Kirkman vers 2005, c'est 2 ans après le lancement du comics. Lui et Kirkman vont passer 5 ans à proposer la série sans succès. NBC leur fait écrire un pilote, mais refuse au final. Et on comprend un peu pourquoi, compte tenu des scènes gore de la série. Il s'associe à une productrice très connue, Gail Ann Hurd, qui a travaillé auprès de James Cameron sur des blockbusters comme Terminator et Aliens, ainsi que sur des productions comme Armageddon. Au final, grâce à elle, la chaîne AMC, qui a déjà lancé des séries comme Mad Men et Breaking Bad et qui est en recherche de productions atypiques, dit oui au projet. Et en fait, sur AMC, les différentes diffusions de films d'horreur font beaucoup d'audience durant la période de Halloween, donc ce projet les intéresse. Ils commandent ferme 6 épisodes d'un coup. Pour Darabont et Kirkman, The Walking Dead n'est pas une série de zombies, mais c'est une série chorale sur des personnages en pleine apocalypse. C'est ce que nous a raconté Robert Kirkman en personne quand nous l'avions rencontré au MIP de Cannes, au début de la série, en 2010. Quand je me suis décidé à me lancer dans ce film de zombies qui ne connaît pas de fin, j'ai voulu faire une histoire très très longue sur la façon dont les gens changeraient avec le temps dans ce type de civilisation. Si le seul but était le gore, la violence, ou juste des scènes choc, ça n'aurait pas duré, car personne ne s'investit là-dedans. Et ça resterait une suite de plans et d'images gore. C'est presque obligatoire de faire une série basée sur des personnages afin que le spectateur puisse s'investir dans ces personnages. Darabont développe la série, en est le producteur délégué, scénariste, réalisateur, showrunner, donc directeur d'écriture. Kirkman, lui, est impliqué dans la production, même si au départ c'est quand même que le créateur du comics, et il fait donc partie des scénaristes. En cela, il revisite les histoires qu'il a écrites pour le comics car, et c'est important, dès le début, il est décidé que, au fur et à mesure, la série va s'éloigner de la trame des comics. Kirkman nous a expliqué tout ça. C'est vraiment le meilleur des deux univers, c'est tout ce que j'aime dans le comics et tout ce que les fans du comics adorent, mais Frank Darabont est allé bien plus loin. Il a élargi certaines scènes de ce qui semblait capital, il ajoute de nouveaux personnages, il insuffle une toute autre dimension à l'histoire. Il a fait un travail remarquable. Il a transformé ce que je crois être un comic book plutôt cool en une excellente série télé. À l'écriture, aux côtés de Darabont, on trouve Charles Aigli, qui a travaillé auparavant sur des séries comme Dexter, Murder One, Claire de Lune, voire même The Shield, et Jack Loguidus, qui travaille maintenant sur Narcos et House of Cards. Et Greg Nicotero travaille sur les effets spéciaux. Je vous en ai parlé, mais c'est un des patrons de la firme KNB qui travaille sur les plus grands films d'effets spéciaux, ceux de Tarantino par exemple, Une nuit en enfer à Pulp Fiction. Plutôt que de tourner en numérique, voire même en 35 mm, comme le font la plupart des autres séries, le choix est fait de tourner en Super 16, un format beaucoup plus maniable et qui se rapproche du côté un peu noir de la BD. Et enfin, c'est Bear McCready, le compositeur de la musique de Battlestar Galactica, qui se charge des morceaux musicaux si particuliers de The Walking Dead. Le pilote de 90 minutes est tourné en 15 jours à Atlanta. Il est diffusé en octobre 2010, justement pour Halloween. Il obtient l'audience de 5 300 000 téléspectateurs, la plus grosse audience de tous les temps pour la chaîne AMC. Et à la grande surprise, ce succès se confirme les semaines suivantes, même en dehors de la diffusion en période événementielle de Halloween. 5 200 000 en moyenne, et le final de la saison 1 fait même un score incroyable de 6 millions de téléspectateurs. Après ce succès totalement inattendu, la saison 2 comptera le double d'épisodes, 13. Mais un événement inattendu survient en coulisses. Durant l'été 2011, tout juste 3 jours après avoir promotionné la série lors d'un panel au Comic-Con de San Diego, Frank Darabont est viré du jour au lendemain. Et l'équipe stupéfaite apprend cela en plein tournage. C'est le début d'une histoire absolument incroyable qui se poursuit encore de nos jours et qui compte presque plus de suspense et de rebondissements que la série elle-même. C'est carrément un chapitre entier de cette histoire que je vais tenter de vous résumer maintenant. Vous allez voir, c'est peut-être du légal, mais c'est incroyable. À la base de ce renvoi, on trouve tout d'abord la volonté du diffuseur de réduire le budget de la série malgré son succès international. Puis, le diffuseur ne voulait plus réinjecter dans la production les 30% de remise sur les taxes locales qu'entraîne le tournage en Géorgie. Il a préféré se les garder pour lui. Ce qui a profondément énervé Darabont, prêt à tout pour s'opposer à cette décision. Et tout ça est une attitude de la part du diffuseur AMC qui, à l'époque, avait déjà causé pas mal de troubles sur leur autre série Breaking Bad, mais qui avait été aussi publiquement perçue lors de démêlés avec Matthew Vienner, alors showrunner de Mad Men. À ce moment-là, le budget de la série, qui était initialement de 3 400 000 dollars par épisode, se trouve réduit de 650 000 dollars, donc ramené à 2 750 000 dollars. Pour une série aussi ambitieuse, majoritairement tournée en extérieur, avec une grande distribution et une horde de zombies à maquiller, c'est tout bonnement intenable. Et une autre cause de son renvoi, extrêmement cynique celle-ci, semblait être de se soustraire à des obligations contractuelles qui tombaient pile à ce moment-là, et qui aurait permis à Darabont et à ses agents d'augmenter leur participation au profit de la série. On aurait pu en rester là. Mais un an et demi plus tard, en décembre 2013, c'est le Big Bang, un coup de tonnerre qui résonne dans tout Hollywood. Darabont et ses agents artistiques font un procès à la chaîne et distributeur AMC pour rupture abusive de contrat et absence de perception de royalties sur les profits dégagés par ce méga hit. Parce qu'en effet, par un savant jeu d'écriture et une méthode de calcul un peu compliquée, que je ne vais pas vous détailler maintenant, vous inquiétez pas, le diffuseur et distributeur est donc accusé de tricherie et de faire en sorte de ne pas calculer correctement les bénéfices de la série, de jouer avec les royalties extrêmement faibles qui étaient censées être évaluées. La série présente toujours un déficit de 49 millions de dollars. Un déficit alors que la série est un succès mondial. C'est à peine croyable. C'est devant la Cour suprême de New York que l'affaire va se jouer des années durant. Darabont et ses agents estiment que ce sont des dizaines de millions de dollars qui leur ont échappé. Un an plus tard, recoup de théâtre, Darabont découvre que non seulement ses royalties ont été réduites, mais que sa fonction de showrunner n'est pas valorisée sur la seconde saison de la série, ni même sur les droits dérivés associés à la série. Ça inclut par exemple tout ce qui peut être spin-off, suite ou produit dérivé. Cela concerne par exemple un talk show hebdomadaire où chaque nouvel épisode est disséqué qui s'appelle une Talking Dead. Donc il ne touche rien là-dessus. Par contre, Darabont va retirer sa plainte concernant son renvoi abusif. En 2016, après que l'instruction a eu lieu, les dommages réclamés par Darabont et son équipe se montent, tenez-vous bien, à 280 millions de dollars. C'est un des plus gros procès de ce type qui se prépare. Le diffuseur répond en balançant une véritable bombe, et là ça devient carrément glauque, les emails écrits par Frank Darabont à l'époque où il était showrunner de la série, dans le but de le discréditer. Dans ses messages excessivement vulgaires et grossiers, Darabont s'en prend en termes très peu châtiés, au réalisateur qui ne suit pas le script à la virgule près, au caméraman incapable de bien cadrer d'après lui, bref, quasiment à tout le monde. Darabont accuse des scénaristes d'incompétence, menace sous le coup de la colère de les tuer à coups de briques et de brûler leur maison, puis de jeter leur corps par la fenêtre, etc., etc., etc. Mais le feuilleton est loin de connaître son dernier rebondissement. Parce que ce sont maintenant tous les autres responsables de la série qui intentent un procès en tromperie à la chaîne AMC. Robert Kirkman, le créateur du comics, et Galen Hurd, la productrice, entre autres. Tous, comme Darabont, accusent le diffuseur-producteur d'avoir volontairement manipulé les comptes pour les priver d'une part très importante des bénéfices auxquels ils ont droit contractuellement. Les dommages pourraient représenter jusqu'à 1 milliard de dollars. Quelques mois plus tard, en janvier 2018, Darabont fait un deuxième procès à AMC, en parallèle au premier, car il a fait un audit des pièces comptables que ce dernier a dû lui fournir. Il y découvre d'autres malversations, entre autres des manques sur les droits de la série, quand la série est vendue sur iTunes, par exemple. Les rebondissements vont sans doute continuer d'abonder, les sommes en jeu étant parmi les plus conséquentes jamais jugées pour un média télé. De plus, les auditions et le procès deviennent symboliques des dérives de l'intégration verticale que vivent de nombreuses industries, optimisant les profits entre sociétés du même groupe, au détriment des revenus perçus par les créateurs de contenu. Voilà, ça pourrait être fini avec ce procès, mais non, ce n'est pas fini avec les procès, parce qu'il y en a eu un autre. Parce que décidément, le succès de The Walking Dead attise bien des convoitises. Tony Moore, vous vous souvenez? C'était l'ami d'enfance de Bob Kirkman, le dessinateur des tout premiers numéros du comics. Eh bien, lui revient à la surface, il affirme avoir été dupé quand il a cédé ses droits sur la série. Le torchon brûle donc entre les deux amis qui ont grandi ensemble. Bon, alors, on va maintenant revenir quand même un peu à la série elle-même, et quand même un peu la base, parce que les procès, c'est bien, mais tout de même, c'est le producteur exécutif de la série Glenn Mazzara, qui avait précédemment travaillé sur The Shield, qui se trouve propulsé au rang de showrunner quand Darabon est viré, alors que celui-ci avait déjà travaillé sur une bonne partie des épisodes de la seconde saison. Maintenant, on pouvait craindre quand même une chute d'audience, Franck Darabon n'est plus aux commandes. Eh bien, c'est le contraire. Le final de la saison 2 culmine à 9 millions de téléspectateurs, celui de la saison 3 fait encore mieux, 12 400 000 téléspectateurs. Mais un autre élément vient de ternir ce beau succès. En décembre 2012, le nouveau showrunner Glenn Mazzara déclare forfait. Il annonce qu'il quittera la direction de la série à la fin de la saison 3 pour différence d'opinion avec la suite qui sera donnée. Des sources au sein de la production rapportent plutôt des retards dans l'écriture qui obligent à stopper plusieurs fois le tournage et un conflit ouvert entre lui et Robert Kirkman. Comme avec Darabon, c'est une autre personne qui fait déjà partie de l'équipe qui va le remplacer dès la saison 4, Scott Gimple, qui fut par le passé le scénariste sur des séries comme Life ou Flash Forward. Il compte revenir à des histoires plus orientées sur les personnages et moins sur l'action. La saison 4 de la série atteint cependant des scores stratosphériques. 13 millions de spectateurs en moyenne, dont 8 400 000 dans la tranche d'âge de 18 à 49 ans, la plus prisée des annonceurs publicitaires. La saison 5 dépassera, elle, les 20 millions de téléspectateurs. Bon, on comprend l'empressement d'avoir les droits, les royalties sur la série, hein. Le tournage se déroule toujours en Géorgie, mais sous une chaleur écrasante de 35 degrés. Andrew Lincoln a d'ailleurs succombé à la chaleur plusieurs fois en perdant connaissance. Et Dinah Gurira utilise sa perruque comme réservoir d'eau fraîche pour la réhydrater. Le 12 juillet 2017, une tragédie survient lors du tournage. Un cascadeur de 33 ans, John Bernecker, se tue en sautant d'un balcon et en manquant le matelas censé amortir la chute. Le drame interrompt la production de la série. Avec sa saison 9, c'est à nouveau un remplacement de showrunner qui se produit. Angela Kang, qui travaille comme scénariste sur la série depuis ses débuts, prend la suite de Scott Gimple. Elle doit gérer un bond dans le temps, cette saison se déroulant bien plus tard que la précédente. Elle doit gérer aussi le départ d'Andrew Lincoln, mais aussi de Lauren Cohan, alias Maggie, car l'actrice est en conflit avec la production à propos de son salaire. Au final, seuls restent des débuts de la série, Daryl, Norman Reedus, et Carol, Melissa McBride. Enfin, pour terminer, il faut quand même évoquer le fait que, au-delà de tous les objets dérivés suscités par la série, au-delà des web-séries, il y a eu même une série dérivée qui voit le jour en 2015. C'est Fear the Walking Dead. Elle se tourne à Vancouver, elle est censée se dérouler à Los Angeles, plus tôt dans le temps, juste au début de l'apocalypse zombie, et on y suit une famille, Madison et Travis, avec leur fille Nick et leur fille Alicia. Lors de la saison 4, le personnage de Morgan, qui apparaît au début de la série originale, ressurgit d'ailleurs dans Fear the Walking Dead. Et Gina Elfman, la Gina Elfman de la sitcom Dharma et Greg, vous souvenez peut-être, eh bien, elle intègre la série, elle va interpréter le rôle de Naomi. En raison de son procès en cours, que je vous ai raconté, Frank Darabont, qui pourtant est le créateur initial de la série, ne figure pas au générique de cette nouvelle version et ne perçoit aucune royalties. Et c'est d'ailleurs pour cela que la série est décrite officiellement comme une série compagnon et pas comme une série dérivée. Donc, à quelques mots près, c'est pour que Darabon n'y soit pas contractuellement associé. The Walking Dead est un véritable carton. Qui aurait pu penser qu'une série sur des zombies et des morts-vivants pouvait devenir un véritable succès à travers le monde ? Et la série continue encore.